Au niveau de la pratique, les deux collections de manuels les plus distribuées, les plus vendues dans les années 10 et les années 20 sont chez Hachette Gauthier-Deschamps et chez Collin Lavis. Or là, il n'y a pas d'état d'âme. Dans les deux cas, c'est affiché dès l'avant-propos. Il y a des jugements moraux, des jugements de valeur sur les acteurs de l'histoire. C'est annoncé et c'est marqué dans la typographie, de manière à ce que ce soit bien clair et bien distinct du récit, par une typographie en général en italique ou en gras. Dans l'avant-propos du Gauthier-Deschamps, édition de 1924, cours moyen, le cours se distingue par les innovations suivantes, 1, bon, etc. 4, des idées et des jugements seront fournis aux élèves dans la leçon, aussi bien que dans les exercices d'intelligence et de réflexion qui accompagnent la leçon. Ils font de l'histoire autre chose qu'un entassement de dates et de noms. Ils en font un livre qui apprend à bien penser et à bien juger. Donc c'est clair, enfin, c'est annoncé. L'histoire porte des jugements, elle porte des jugements moraux et elle fait passer à son tribunal, en quelque sorte, les acteurs de cette histoire.
Exemple, dans le chapitre 1 de la vie sur la Gaule, le résumé que les élèves doivent apprendre, enfin doivent lire, c'est « Il y a 2000 ans, la France s'appelait la Gaule, et non pas un autre pays s'appelait la Gaule. La France s'appelait la Gaule, elle était formée d'une multitude de petits peuples en italique. Elle n'était donc pas la France n'était donc pas une patrie, puisqu'une patrie est un pays dont tous les hommes doivent s'aimer entre eux. » Et c'est ça que les enfants doivent apprendre, et c'est ça le jugement moral.
Est-ce que vous voulez...
J'ai pas...
Pareil dans l'enseignement privé.
Non, j'ai pas de réponse là-dessus.
Pas de réponse, bien. Oui. Le micro...
C'est juste une question. Y a-t-il un débat sur le panthéon scolaire, sur les choix notamment des héros ou, dans le débat que vous avez évoqué
Au congrès de Lille, je n'ai pas souvenir de ça, non. Pardon, Anne-Marie.
Au congrès de Lille, je pense que non, mais dans l'actualité, oui. La chose qui nous rend très difficile la lecture de ça, c'est que nous, on sait tous qu'en 1914, il y a une guerre.
Alors qu'en
1906, ils ne le savent pas. Et qu'en fait, toutes les remises en cause du patriotisme à l'époque, on les lit un petit peu à travers la grille du pacifisme de l'entre-deux-guerres, alors que le réarmement est en train de se passer en Allemagne. Et je crois que c'est un des problèmes de nos lectures rétrospectives. C'est que quand on voit les syndicalistes débattre en particulier, il y a des attaques très violentes du patriotisme auxquelles répond Lavis, qui lui trouve qu'au contraire, le sentiment patriotique n'est absolument plus transmis dans les familles, par exemple. Et qui est extrêmement inquiet. C'est des textes qui m'ont beaucoup surpris, parce que j'imaginais pas que Lavis avait une vision aussi pessimiste des transmissions familiales, par exemple. Et il y a tout des passages où il dit que la patrie est un objet de dénigrement et de persiflage permanent. On est entre les années 70, avant Jules Ferry, juste après la Commune. Et pour lui, c'est une des raisons de l'échec ou de la défaite de 70 est aussi une absence de croyance dans le patriotisme, alors qu'on est en plein général Boulanger. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il faut juger à travers Lavis. Est-ce que il est porteur d'un courant d'opinion? Quelle est la représentativité, validité de ses jugements sur son temps? Mais il les perpétue jusque dans les rééditions du manuel qui paraît juste après la guerre. Dans la réédition du manuel qui paraît en 1920, il traite le traité de Versailles. C'est comme si, en gros, un manuel d'histoire qui était paru en 64 traitait des accords d'Évian. Voilà. J'en ai pas trouvé, moi. Même si Jean Leduc a raison, dans le primaire, on a toujours dit qu'il fallait traiter de l'actualité, enfin de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et il y a tout un paragraphe sur la SDN, sur le fait qu'il n'y aura plus de guerre, sur le bon patriotisme et le mauvais, celui des barbares d'en face, les Allemands, le bon, celui de la France éternelle, qui peuvent nous paraître des partis pris dont il ne faut pas penser que Lavis les fait de manière naïve. Il les fait de manière assumée, comme de l'instruction civique. Et c'est là-dessus que pour nous, je dirais, si on reporte pour aujourd'hui ces prises de position, on est dans des choix qui me paraissent difficiles. C'est-à-dire que nous, on vient après, Lucien Febvre, les grandes déclarations, non, l'histoire ne doit servir à rien, l'histoire qui sert, c'est une histoire serve. Nous ne sommes pas être là pour débattre de qui a raison entre les Allemands et les Français. L'histoire est une discipline où l'on cherche plus encore qu'on trouve. Bon, et qui dit ceci pour la première, enfin je pense de manière très claire, ce qu'est la recherche historique, et le métier d'historien, et ce qu'est l'enseignement de l'histoire. Lucien Febvre ne dit rien sur l'enseignement de l'histoire. Alors qu'on est encore à une époque où, pas dans cet entre-deux-guerres-là. Mais alors qu'à cette époque-là, il me semble qu'il y a, je ne sais pas si tu es d'accord, Frédéric, c'est une continuité entre ce qui est conçu comme l'histoire et ce qui est conçu comme l'histoire enseignée. Alors qu'il y aura plus tard un problème de disjonction ou de conjonction, de continuité ou de discontinuité entre ces deux domaines.
Oui. Vas-y.
Non, vas-y, Frédéric.
Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire à la fin, c'est qu'il y a effectivement l'idée d'une continuité entre l'histoire qui se déroule et l'histoire qui s'enseigne. Et concernant le patriotisme, moi je vois les instituteurs eux-mêmes déchirés, même les syndicalistes, et même les syndicalistes modérés sont partagés entre approbation d'une certaine forme de patriotisme protecteur et défense d'un pacifisme. On voit les tensions à l'œuvre dans les débats. Concernant le mauvais patriotisme, alors je ne l'ai pas cité, mais dans le long article, dans la conférence de Amédée Gasquet, il y a un développement sur l'Allemagne qui est une attaque étonnante, où il dénonce effectivement un patriotisme revanchard et aveugle, et il défend un patriotisme français finalement amélioré par le pacifisme. Enfin, c'est assez étonnant, ce développement.
Il me semble que le débat se perpétue aussi avec Marc Bloch au moment de Lucien Febvre, puisque Marc Bloch, dans le métier d'historien, écrit, c'est de 29, le métier d'historien, écrit explicitement qu'on ne peut pas, on n'est pas totalement historien si à la fois on n'est pas... On n'est pas à la fois professeur d'histoire, capable de transmettre l'histoire et être dans une dynamique de recherche. Ce qui n'est pas la position de Febvre.
Si je peux sortir un peu de mon rôle de présidente pour faire une petite intervention. Avant Marc Bloch, et en particulier chez Seniobos, la distinction est très 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 nette entre les artisans, ceux qui... font de la recherche historique et de l'analyse plutôt que de la synthèse d'ailleurs, et les enseignants qui transmettent du produit fini. Et c'est quelque chose qui semble, dans l'état de mes lectures, aller de soi pour cette époque. Et lorsque Seniobos a cherché à faire de l'histoire un enseignement plus vivant, utilisant des méthodes actives, ce dont il s'inspire, c'est des pratiques de l'enseignement des lettres classiques, c'est-à-dire études de textes à l'avance, préparation, comme on préparait les textes latins et grecs, par exemple. Le modèle est très très net, mais il ne cherche pas à donner, à faire acquérir aux élèves des embryons de techniques historiques. Pour le secondaire, oui. Mais bon, je donne ça comme exemple de l'état d'esprit de l'époque. Donc, ce qui a été dit, effectivement, c'est tout à fait utile. C'est un point de repère important. C'est que l'idée, juste ou fausse, alors ça, c'est une autre question, mais l'idée que on puisse chercher à initier des élèves une méthode historique, c'est une idée tout à fait récente à l'échelle... Ça n'existe pas, à ma connaissance, au début du XXe siècle. Plus fort.
C'est l'INRP qui a insisté dans les années 70 sur la nécessité de trouver un lien entre entre la recherche, la méthode historique et l'enseignement de l'histoire.
On pourrait quand même remonter aussi un peu avant, je pense.
Oui.
À tout ce qui concerne l'enseignement centré sur l'intérêt.
Je parle de l'enseignement primaire.
Hein. Oui, d'accord. Mais même Roger Cousinet, c'était l'enseignement primaire. Hein. Bien, s'il n'y a plus de questions sur ce thème, hein, si, ben, je vous en prie.
Non, c'était pas une question, c'était juste une remarque
sur
le débat donc sur le but d'enseignement de l'histoire entre. Développer le sentiment patriotique ou exigence de vérité. Et je voulais juste citer les instructions officielles de 1923 et la façon dont ils résolvent le problème. La place de la France dans le monde est assez grande, son rôle assez noble pour qu'un enseignement sincère, soucieux de vérité jusqu'à l'intransigeance, favorise l'éclosion et l'épanouissement du sentiment patriotique.
Oui, enfin, c'est une idée, elle aussi, qui est dès 1876 parfaitement admise, et le lancement de la revue historique et le fameux article de Monod disant qu'il travaille en même temps, d'un même mouvement, ouais, à la gloire de la patrie et à la recherche de la vérité, parce que les deux, pour lui, ne voient pas de faille. Entre les deux, c'est toute une époque.
Et Carcopino dira à peu près la même chose dans les instructions de 1942, à peu près dans les mêmes termes qu'en 1923. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la recherche de la vérité et l'exaltation de la patrie.
Avec moi,
on est en 42. Hein.
Oui, on est en 42. Il y a moins de... moins d'originalité dans le propos.